Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Liès Chala. Je viens de Paris, marié. Je suis d'origine algérienne, donc de la Kabylie, comme vous l'avez aperçu sans doute sur les photos. Je me suis converti aussi en Algérie, cela fait 16 ans maintenant que je suis chrétien. J'ai fait un parcours de théologie en France, puisque je suis passé par l'Institut public de Nogent. C'est là-bas que j'ai rencontré Cyril, qui est dans votre église. Et j'ai aussi fait un parcours à la fac de théologie de Vaux-sur-Seine. Et j'ai fini mes études avec un master 2 en théologie. Et ma présence ici à Clermont-Ferrand, je suis venu exprès pour animer une conférence débat sur un thème en rapport avec l'islam. Et la problématique, c'est comment peut-on être sauvé selon la Bible et selon le Coran. Je crois que Michael pourra vous faire peut-être un jour un petit bilan. Et c'était très intéressant. C'était pour la soirée du vendredi, c'était le vendredi soir, devant une cinquantaine de personnes. Le débat était très bien animé. Et on se rend vite compte que l'islam, en fait, est une... Quand on est sous l'emprise de l'islam, on ne réfléchit pas à tout ce qui nous entoure. Et j'espère que tout ce qui a été dit va permettre aussi aux personnes présentes de mieux réfléchir à la question et aussi chercher Dieu. C'était le but. Hier, j'étais ici, hier matin, pour faire une formation à l'évangélisation des musulmans, au profit des étudiants. Et hier soir aussi, j'étais invité par un ami pour faire un groupe de maison, une rencontre pour témoigner à des personnes, à des musulmans notamment, comment je me suis converti. Et je suis venu aussi en tant que missionnaire de la mission MENA. Je ne sais pas si vous connaissez, ministère évangélique parmi les nations arabophones. C'est une vieille association, une mission qui remonte à... Son existence remonte à 1887. Et je travaille particulièrement auprès des GBU, les groupes bibliques universitaires, comme chargé de mission auprès des étudiants musulmans en France. J'ai ramené des lettres de nouvelles, des exemplaires de ma dernière lettre de nouvelles qui est là-bas au fond, sur la table, ainsi qu'une liste. Et si vous souhaitez recevoir mes lettres de nouvelles les prochaines, vous pouvez mentionner votre adresse mail éventuellement. Et j'ai aussi une carte, j'ai mis sur place une carte de présentation, une carte de visite. Et je suis très content qu'on me donne cette occasion. C'est pour la première fois que je prêche sur le thème de l'Église persécutée. Moi-même, je viens de l'Église persécutée. Je suis le fruit de l'œuvre de mes prédécesseurs dans la foi en Algérie, en Kabylie. Et je suis ravi aussi de partager ça avec vous tout au long de mon message de ce matin. Chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire de l'Église en général, depuis que l'Église est née, l'Église a connu des moments de joie, effectivement, parce qu'elle a grandi, elle a atteint les confins du monde, mais aussi elle a traversé des moments de souffrance et des persécutions. Justement, c'est à cause de ces persécutions que ces chrétiens ont fui Jérusalem et ses alentours et annoncé la bonne nouvelle dans les terres d'accueil. Néanmoins, qu'est-ce qu'on remarque tout au long de cette histoire de l'Église, c'est que la mobilisation des frères et sœurs dans toutes les églises pour soutenir l'Église persécutée est toujours là. Cette mobilisation est de plus en plus forte. Et une autre chose qu'il faut aussi considérer, c'est que Dieu, souverain, n'a jamais abandonné son Église. Il ne l'a jamais laissée seule face à des impuissances ou face à des difficultés. Même si, dans sa parole, il nous l'a dit, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme des serpents et purs comme des colombes. » Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire d'un homme de Dieu dont la Bible parle, dont lui-même était acteur dans le Nouveau Testament. Et à cause de sa foi, à cause de son choix, il a subi aussi des persécutions des gens de son temps. Cet homme, nous le connaissons tous, c'est Paul. Je vous invite à ouvrir vos Bibles sur l'Épître aux Corinthiens, la deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 18. De Corinthiens, chapitre 4, versets 7 à 18. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la voix de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur, être extérieur, se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Alors, pour comprendre un peu pourquoi Paul écrit ce passage, il faut retourner au contexte initial de la lettre. Paul a écrit cette lettre aux Corinthiens lors de son départ de la ville d'Éphèse, qui correspondait à son troisième voyage missionnaire. Dans cette épître, en général, l'épître de Corinthiens, Paul mentionne ce Dieu consolateur et aussi rempli de miséricorde, ce que nous pouvons lire dans le chapitre 1. Mais dans notre contexte, il parle de ce Seigneur Jésus qui est le Seigneur de tous. Et nul n'est seul dans le combat qu'il mène sur cette terre pour la gloire de Dieu. Et nous distinguons en quelque sorte trois parties visibles qui nous permet de comprendre ce contexte ou ce texte. D'abord, il parle des souffrances endurées à cause de Jésus-Christ. Celui qui croit en Jésus, il passe par des moments d'épreuve. Et au verset 12 à 15, il dit pourquoi on est obligé, pourquoi tous les chrétiens doivent souffrir. En tout cas, ceux qui passent par ces moments de souffrance, parce qu'il faut pas aussi avoir une mémoire courte. Même en France, les chrétiens ont beaucoup souffert. Si nous citons un peu les Cévennes, ceux qui sont originaires de cette région peuvent savoir comment ces chrétiens, les camisards, comme on les appelait, ont souffert de la persécution de l'Église catholique. Et en troisième point, nous découvrons que, après tout, au-delà de toute chose, Dieu est là. Nous ne nous perdons pas espoir, parce que Dieu a vaincu le monde et nous sommes plus que vainqueurs. Donc, la première partie, les questions de la souffrance endurée à cause de Jésus. Paul dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Et dans la vie de Paul, il rappelle constamment qu'il est agressé par ses adversaires, qui l'ont assailli par plusieurs difficultés, mais ces difficultés ne l'ont jamais empêché de faire l'œuvre de Dieu. Et au début, il a souligné que nous sommes de ceux et celles qui portent ce trésor dans des vases d'argile. Mais c'est un trésor aussi qui nous vient de Dieu. Et nous le portons aussi pour Dieu. Donc Dieu nous soutient. Quand je lis cette phrase, ça me rappelle inévitablement aussi ce que j'ai passé en Algérie. Donc moi, je suis né en Kabylie, dans les montagnes. Et j'ai grandi là-bas, j'ai passé une partie de ma vie là-bas. Et je me rappelle comment nous passons vivions notre foi dans ce village, perché au sommet des collines. Et nous nous considérions comme étant les seuls chrétiens au monde, parce qu'il n'y avait aucun, on n'avait pas de repères en dehors de ce qu'on avait comme livre, comme Bible, comme contact restreint. Et nous étions tellement comblés par ce que Dieu avait fait dans la vie de chacun d'entre nous que nous lui faisons totalement confiance. Et ça nous arrivait à l'époque, il n'y avait pas d'église au sens propre, donc un local. Nous nous réunissons dans les bois tous les soirs, entre jeunes. Voilà. Et c'était un peu notre rituel, nos habitudes. Et nous profitons, nous passons des moments agréables à chanter, à prier et à s'encourager mutuellement. Et c'était pas facile. C'était pas facile parce que pour s'y rendre dans ce culte, dans ce lieu, il fallait qu'on passe le message discrètement entre nous, il fallait être à l'heure, au bon endroit, il fallait pas qu'on nous aperçoive. C'est comme si on allait faire... commettre quelque chose de dangereux. Pourquoi ? On faisait attention pour ne pas se faire remarquer par les autres, parce qu'on ne savait pas quelle serait leur réaction, même si de plus ou moins la société dans laquelle j'ai grandi était un peu plus ouverte que celle que nous connaissons dans d'autres endroits du monde fermés. Et nous devons être vigilants. Et nous partons faire célébrer ce culte avec ces prières aussi que nous adressons à Dieu pour qu'il nous libère, qu'il nous ouvre aussi la voie pour trouver un lieu de culte adéquat. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Malgré la détresse, Paul n'a jamais sombré dans le désespoir car son espérance est en Christ. Là-bas, on mettait toute notre confiance en Dieu et on n'avait que Dieu pour se plaigner de ce qui nous arrivait. Et j'ai assisté à des personnes, au témoignage des personnes qui ont été abandonnées par leur famille parce qu'ils avaient choisi de suivre Christ. Et le père, il nous racontait, son père lui a dit... Je te laisse un ultimatum de 2 jours pour que tu changes d'avis. Soit tu restes musulman comme tes ancêtres. Nous sommes des musulmans. Est-ce qu'il s'agit d'une appartenance ou d'une confession de foi? Il lui a dit, tu dois revenir à la maison, donc tu resteras comme tes frères et sœurs. Mais si tu ne veux pas, si tu veux suivre la voie des chrétiens, je te renie, je vais même déchirer ta page sur mon livret de famille. Donc, t'es plus de nous. Et c'est vraiment blessant. On arrive à un moment où on se dit, je ne veux pas aussi lâcher ma famille parce que je les aime. Et ce garçon, on a essayé de le consoler. On l'a encouragé. Il a décidé de rester chrétien. Donc il était hébergé par des amis. Et après, il a décidé aussi de déménager. Jusqu'au jour, je crois qu'il est resté pendant des années et des années, il n'a pas revu son père. Il l'a revu en fait à l'hôpital avant même qu'il décède. Donc il lui a demandé pardon. Voilà. C'est un peu ça le parcours d'un chrétien qui souffre. Pourquoi ? Il n'a pas volé, il n'a pas tué quelqu'un, il ne s'est pas rebellé contre le gouvernement, mais tout simplement parce qu'il a décidé de croire. Voilà, c'est ça son crime. Voilà. Où normalement, il est question de croire, il est question d'un choix personnel, comme quand on choisit de faire quelque chose. Et nous vivons dans cette situation où nous nous encourageons mutuellement et nous n'avions qu'un seul soutien, c'était Dieu. Pourquoi ? Parce que persécuté, mais pas abandonné. Paul se sentait sans doute talonné par les ennemis de l'Évangile au quotidien, persécuté par les autres sans cesse, mais jamais abandonné par Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu n'abandonne pas les siens. Il ne laisse personne se perdre. Et cette promesse, il l'a faite à Josué. Donc Dieu l'a faite à Josué dans Josué 1:5. Il lui a dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Abattu, mais non perdu. Et c'est vrai, on arrivait à une situation où on était content de suivre Christ, parce que Christ a changé nos vies, et Christ est notre vie. Mais au même temps, on était tiraillé par le monde extérieur. Donc, et à chaque fois, quand nous lisons cette parole de Jésus qui dit « Je leur donne la vie, mes brebis et mes brebis ne périront jamais, personne ne les ravira de ma main. » On se dit, mais Seigneur, je sais que tu ne vas pas nous abandonner. Nous savons que tu es là à nos côtés et nous savons que rien ne peut nous séparer de ton amour. Mais donne-nous le courage aussi de passer ces moments d'épreuve. Et Dieu était fidèle. On a persévéré, le nombre des chrétiens a augmenté. Et on continuait à prier pour trouver un local. Et pour l'anecdote, donc il y avait un monsieur qui habitait, il était en train de construire une maison en dehors du village. Et puis, comme son épouse venait de décéder, donc il a décidé de quitter cette maison pour vivre ailleurs. Et ça arrivait au même moment où on cherchait une maison, on cherchait un lieu. Et le lien s'est fait et puis il a accepté. Il nous a juste posé une condition. Il nous a dit, ben, du coup, comme je n'ai pas fini ma maison de la construire, vous pouvez la retaper. Donc, du coup, vous ne payez pas les 6 premiers mois. Et puis, c'est bon. Hein. Ben, autant qu'elle soit habitée que qu'elle soit fermée, comme ça, il n'y aurait pas de personnes qui vont venir de l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que tout le monde était venu et tous les groupes de maisons. Enfin, tous ces garçons qui avaient leur sœur, leur mère, leur père, qui croyaient, étaient venus. Et c'est la première fois qu'on voyait toute la famille réunie autour de Dieu. Et c'était très touchant. Et ça remontait aux années 2000, en 2000. Voilà. Du coup, après, le monsieur avait trouvé une femme, donc il s'est marié, il a décidé de revenir. Et on était obligés de partir. Et au moment où on devait partir, ben, il fallait trouver un autre lieu. On avait, pas loin du lieu, du premier lieu, il y avait une construction aussi d'une personne qui est arrivée. Vous savez, là-bas, les gens, ils aiment construire aussi en bas de la route. Voilà. Et c'était arrivé juste au même niveau que la route. Et puis, on lui a proposé, on lui a dit, est-ce qu'on peut continuer à construire pour éventuellement ces garages et on peut célébrer notre culte. Voilà, et passer, enfin louer pour des. Voilà, il a dit ok, pour lui ça ne le gênait pas. Et ça. Ce local est encore mieux fait parce que c'était adapté à un lieu de culte. Donc il n'y avait pas de cloison au milieu. Et cet effet, il y avait une estrade. Et là, ça, le nombre aussi a augmenté. Et on est arrivé jusqu'à même avoir 130 membres. Elle y est toujours. Et sur la vidéo, j'ai reconnu certaines personnes qui étaient là, donc en train de prier. Et c'est là aussi le clin d'œil de Dieu, j'ose dire. Dieu est là. C'est vrai que sur le tas, on ne le voit pas parce qu'on est confronté à une situation difficile. Mais Dieu contrôle toute chose et rien n'échappe à son contrôle. Nous portons dans notre corps la mort de Jésus afin que nous vivions. Mourir à soi-même n'a jamais été aussi bénéfique pour notre âme. La vie d'un serviteur de Dieu se voit dans la mort à lui-même. Et c'est vrai qu'au début, quand on vivait ces situations, on disait, mais pourquoi on est obligé de passer par là? Pourquoi on est obligé d'endurer toutes ces difficultés? Mais il faut savoir que nous ne sommes pas plus grands que notre maître. Et si Jésus disait, s'ils avaient fait ça à un bois vert, qu'est-ce qu'ils feront à un bois sec? Et à travers toutes ces expériences, nous avons compris que il suffit uniquement de faire confiance à Dieu. Et Dieu est là pour nous soutenir. Au verset 12, il est dit « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Ça veut dire quoi cette expression, cette parole de l'apôtre Paul? Paul insiste sur le fait que si les souffrances du monde présent nous guettent, c'est que cela n'arrive pas en vain, mais ça arrive au bénéfice de l'autre. Et c'est grâce à ces persécutions que l'Évangile a été annoncé. Et c'est grâce aussi à cette endurance que l'Église est bâtie. Et je dirais aussi, c'est grâce à ce que les autres ont semé que nous sommes là, nous qui sommes des fruits. Et c'est grâce à ce que nous semons aujourd'hui que demain, il y aurait aussi des fruits. Donc, il a fallu qu'un grain de blé meure pour donner naissance à plusieurs. Donc, et c'est après que nous comprenons que passer par des moments d'épreuve, ça nous permet aussi de soutenir ceux qui passent par des moments difficiles. Même si nous ne passons pas par l'épreuve, nous sommes conscients que l'épreuve est là et qu'il y en a ceux qui souffrent. Et que nous sommes là pour les soutenir et prier pour eux. Je me souviens quand j'ai fait mes études à Alger, la capitale, donc j'ai étudié les Sciences Po. J'ai quitté mon village où j'ai grandi dans la foi. Quand je suis arrivé à Alger, on ne dirait pas que c'est le même pays. Des mosquées partout, des femmes voilées. Enfin, on n'est pas habitué à ça, on a une mosquée au village, mais on n'a pas 4 mosquées. Et quand je suis arrivé, je me suis dit, est-ce que je vais tenir 4 ans dans ce milieu-là, milieu hostile à l'Évangile? Est-ce que je vais étudier tranquillement et vivre ma foi, sachant que je suis à 150 km de chez moi? Et au début, j'étais zélé. Je suis arrivé, dans ma chambre, j'ai placardé mon calendrier éphéméride, voilà, une Bible. Voilà. Hein. Puis on était en colocation, donc j'étais pas le seul. Puis l'un arrive, l'autre, c'est quoi ça? Vous êtes chrétien? Ben oui. Ah bon? Il y a des chrétiens en Algérie? Ben oui. Ben c'est nouveau ça. Depuis quand? Depuis longtemps. Bon, ça veut dire quoi, chrétien? Comme ça? Non. Et du coup, j'étais obligé aussi d'expliquer, de leur apporter tout ce qu'il faut pour comprendre. Et peut-être je suis allé un peu plus vite dans cette situation, parce que je me suis retrouvé très vite dans l'embarras, parce que ben, certains n'étaient pas contents, parce qu'il y avait des musulmans, tout simplement. Ils ont dit, les chrétiens, ils vont y aller au feu, en enfer, ils ont falsifié les Écritures. Et j'étais seul pour lutter. Et je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'aides pas? Pourquoi tu m'orientes pas et tu m'aides pas à rencontrer des chrétiens? Et c'est en priant que j'ai compris que ma démarche n'était pas la bonne. Que dans ce milieu-là, qui est différent, il fallait opter pour une autre démarche. Et que c'était plus le témoignage qui va parler plus que notre bouche. Ben, et c'est ce qui est arrivé après. Donc, je me suis organisé. Deux ans plus tard, il y avait un camarade de classe qui m'a posé une fois la question en me disant « Mais Elias, j'ai quelque chose à te dire. » Donc ça fait 2 ans qu'on est dans la même fac, on est dans la même cité universitaire, et j'ai remarqué quelque chose en toi. En fait, tu n'es pas comme nous, tu es différent. Bah, « Oui, comment ça, différent ?» Mais il m'a dit « Écoute, à chaque fois qu'on organise une buverie enfin, pour picoler, tout ça, tu viens jamais. » Nous, on est jeunes, on aimerait bien draguer les filles, et toi, ça ne t'intéresse pas. Il a commencé un peu à me dire un peu quelle est la normalité selon lui. Comme si, voilà, quand on arrive quand on est jeune, on doit passer par là. Mais je lui ai dit, écoute, Majid, ce que tu me dis me pousse aussi à te raconter mon histoire, enfin, mon témoignage, comment j'ai connu Christ. Tout ce que tu me racontes là, je l'ai déjà fait avant de connaître Christ, et j'en ai fait pur. Je n'ai fait plus. Et depuis que j'ai connu Christ, ma vie a changé. Donc tout ça, toutes ces choses sont anciennes, sont passées. Et en Christ, on est une nouvelle créature. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Après, il m'a dit... Donc je lui ai raconté, donc je ne rentre pas dans les détails. Et je lui ai dit, si tu veux qu'on te raconte encore plus, tu peux aller voir les gens de mon village. Et il m'a dit, ouais, je sais, tous les chrétiens disent ça, je sais, oui, Jésus vous a changé, tant mieux pour vous. Alors, je dis oui, pourquoi pas toi aussi? Dieu peut te toucher aussi. Donc on était resté dans cette relation de témoignage. Et pour dire une chose, c'est que ma présence aussi à la fac n'était pas vaine, puisque avant de quitter la fac, c'est-à-dire avant de finir mes études, j'ai eu l'occasion d'assister, d'être membre fondateur de ce qu'on appelle les GBU d'Algérie. Et j'étais là. Je finissais mes études et il y a eu ce projet. Et moi qui avais passé des moments difficiles où il n'y avait ni groupe biblique, ni église à proximité, je me suis dit, je ferai tout pour que ceux qui viendront, des chrétiens de nouvelle génération, trouveront leur place. Et c'était le cas. Voilà. C'était pour dire que ce que nous passons aussi comme difficulté peut nous aider à nous donner cette maturité aussi pour penser aux autres. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce abonde. Tel est le but suprême des actes du croyant. Tout faire pour la gloire de Dieu et gagner beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes à lui. Troisième point, nous ne perdons pas espoir car nous sommes plus que vainqueurs. Déjà au verset 14, Paul dit qu'aucune crainte ne doit nous habiter. Et parfois, c'est vrai que face aux difficultés, on est tellement submergé qu'on a, entre guillemets, des doutes. Et dire, est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce que Dieu peut? On rajoute peu éventuellement. On est tellement assailli, on est tellement... Mais la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas, Dieu est là. Et quand je regarde à mon parcours, comment j'ai passé toutes ces années, c'est enrichissant, c'est bénéfique. Et maintenant, je le partage aussi parmi d'autres. Donc, n'ayons aucune crainte. Celui qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi avec lui. Et nous serons dans sa présence. Amen. Pour Paul, il est clair que cette vie n'est pas la fin de toute chose. Mais le but final de sa vie, c'est de vivre éternellement avec Dieu. Et si Paul parle de résurrection, c'est sans doute il passait par des moments très difficiles où il sentait la mort très proche. Il est allé même jusqu'à dire que si l'homme extérieur ou l'homme visible sera détruit un jour, notre corps, l'homme intérieur invisible se renouvelle pour toujours. Et il ne faut pas perdre espoir. Il rajoute, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que Paul qualifie que ces persécutions sont légères. Il dit les persécutions de légères afflictions du moment présent, des légères afflictions. Il compare tout ça à des moments, à quelque chose qui a peu d'influence. Il doit avoir une influence moindre sur notre foi. Mais tout ça a produit en nous un poids éternel de gloire. Légère influence, les afflictions du moment du présent, et un poids éternel de gloire. Incomparable. Et c'est vrai que quand on se convertit dans un pays persécuté, on n'a pas uniquement sa famille sur le dos, mais on a aussi les autorités, le gouvernement, le village. C'est comme si tout le monde... C'est comme si nous devons quelque chose à tout le monde, quoi. Comme si nous appartenons à tout le monde. Et je me souviens une fois que la police algérienne a fait nous ont rendu visite un jour, parce qu'on était en réunion, dans un lieu en plein air. Et ils étaient venus. Et c'est la première fois qu'on voyait la police... venir nous rendre visite. Après, ils nous ont embarqués au commissariat. Donc, le commissaire a commencé à interroger un par un. Voilà. On a passé, je crois, 4 heures quoi, dans la salle d'attente. Il fallait passer. Ce que je retiens de ces entretiens, donc ils ont commencé par les leaders, bon, pas comme on les appelait, les responsables. Donc c'était les premiers pour vous dire c'est quoi cette histoire, vous êtes groupés, vous organisez quelque chose. Et chacun, avant de rentrer chez le commissaire, a pris un évangile avec lui. Ça c'est... On est... Tous ceux qui rentrent, ils sont un peu rentrés crispés, et à la sortie ils étaient tous joyeux. Ils ont dit on a réussi. Quoi ? Ben, ils ont témoigné au commissaire. Ils lui ont parlé de Jésus. « Oui, vas-y, toi aussi, tu vas le faire. » Et c'était ça. En fait, on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait dans ce commissariat ? Mais c'est aussi pour témoigner à ce monsieur de la police. Et d'ailleurs, ben, donc ils nous ont juste fait comprendre qu'il ne fallait pas être dans cet endroit-là, parce qu'il y a aussi des gens qui consomment de la drogue, etc. Donc on peut vous confondre, du coup, changer de lieu, quoi. Voilà, c'était ça la remarque qu'ils nous ont fait. Ben, sans doute, ils ont fait un PV. Bon, je ne sais pas si mon nom y figure toujours, mais voilà. Donc, on n'était pas dehors la loi. Mais juste pour dire que sur le champ, on était perturbés. On disait, mais vous imaginez, ils appellent vos parents. Qu'est-ce que vous allez dire ? Et c'était des légères afflictions du moment. Mais à chaque, ça je l'atteste et je le dis, je le redis, Dieu ne nous a jamais abandonnés, à chaque moment. Et si nous voyons d'où est-ce que nous sommes partis, moi qui ai converti un peu d'une manière assez particulière, parce que quand je me suis converti, donc d'abord je suis né dans cette famille musulmane de tradition, dans cette société kabyle, mais pas du tout intéressé par l'islam, ça j'ai jamais été convaincu, hein. Heureusement que j'avais cette décision dans mon cœur. Parce que je ne peux pas faire quelque chose sans être convaincu de la faire. Je pense que c'est logique. Du coup, j'étais en recherche. Et comme dans ma situation familiale, comme ma situation familiale n'était pas aussi confortable, donc j'ai donc dans le sens où mon père avait des soucis de santé, donc il avait des séjours à l'hôpital, et ma mère était femme au foyer, mon grand frère était absent pour raison d'études. Donc j'étais livré à moi-même, en quelque sorte. Donc je faisais des choses à ma guise. Et j'étais livré au tabac, au bord de l'échec scolaire, rupture de relations avec les parents. C'était ça un peu le contexte d'avant. Et du coup, mon seul espoir, c'est de croire que Dieu existe, il est au ciel, mais comment y accéder? Pas à l'islam, pas question, j'étais pas convaincu. Donc. Et j'étais un soir avec un ami, au pied de la mosquée, en train de contempler le ciel et regarder les étoiles. Comme par hasard, je ne sais pas d'où est-ce qu'on a sorti cette idée de lancer des vœux au passage d'une étoile filante. On jouait à ça, on avait 17 ans, 18 ans. Et je ne dirais pas que c'est un hasard, mais ce jour-là, Dieu a voulu me parler. Et sur cette place du village, à côté de la mosquée, il y avait aussi un autre groupe de chrétiens, ces jeunes chrétiens, qui allaient se réunir dans les bois. Et l'un d'eux était venu courageusement, évangile à la main, donc pour nous parler de Jésus. Et au début, on n'avait rien compris. C'est normal parce que on n'avait aucune notion de la foi chrétienne. Mais après, la seule chose qu'il m'avait dite, c'est de faire confiance à Dieu, c'est de croire en Jésus, parce que Jésus est mort pour nos péchés. Il m'a dit, tu peux lire cet évangile, si ça t'intéresse, tu peux venir nous voir à la communion fraternelle. Et moi qui cherchais une solution à ma vie, évidemment, je l'ai lu, et ça m'a touché, ça m'a parlé. J'ai vu tout ce que Jésus a fait, et j'ai exprimé un souhait au fond de mon cœur en disant, Seigneur, si tu as accompli tout ça pour ces personnes, en ton époque, est-ce que tu peux le faire aussi pour moi aujourd'hui? Je ne suis pas resté là parce que je ne comprenais pas tout, donc il fallait que je pose des questions. Donc j'étais obligé d'aller les voir. Et quand je suis arrivé, c'est la première fois de l'histoire de toute ma vie de voir des gens qui priaient Dieu dans leur langue maternelle. Moi qui étais habitué à prier, enfin, à écouter des prières en arabe, et là j'ai écouté le groupe de chrétiens prier Dieu en kabyle, chanter en kabyle, se confesser leurs péchés les uns les autres, et lire la Bible. Et quand je suis arrivé, j'ai vu cette simplicité de prière, d'attitude, de joie, et on était vraiment dans une bonne atmosphère, et ça m'a poussé, ça m'a encouragé aussi à faire le pas comme eux et prier, tout simplement. Et j'ai vu Dieu travailler dans ma vie. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé. Peut-être là, vous allez me poser la question, me dire, alors, ma famille était d'accord avec mon choix? Dans mon cas, oui, parce que ma mère cherchait une solution pour moi déjà. Elle voulait que je revienne comme au bercail, ou pour que je sois vraiment, que je me détourne de ma vie passée. Et je lui ai dit que c'est grâce à Jésus que j'en suis arrivé là. Pas mon père, il n'est pas croyant, donc pour lui, l'essentiel c'est que ça va. Je pense que lui, il n'est pas... C'est un peu ça aussi, cette spécificité de ces familles-là, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Et mon petit frère, après, il s'est converti un an après moi. Donc moi, je me suis converti en 98. En 99, je me suis fait baptiser. Et depuis ce jour, donc je ne cesse de témoigner. Voilà pour dire que Dieu était là. Et si on regardait aux choses visibles, aux choses qui nous empêchaient d'y aller loin, je pense qu'on ne serait pas allé loin. Mais on regardait à Dieu. On fixait nos yeux sur Dieu. Et on n'avait pas tort, et on n'a pas tort aujourd'hui. Et on n'aura pas tort parce que Dieu a vaincu le monde. Il est le vainqueur, il est le Tout-Puissant. Impossible de comparer une puissance humaine à la gloire de Dieu. Impossible. Donc c'est lui qui nous a créés, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il fait des choses, Il va faire des choses. À travers ce message, moi je dis que nous sommes renouvelés dans notre être intérieur. À chaque fois que je parle de ça, ça m'encourage encore à y aller loin. Parce que je ne veux pas oublier aussi d'où est-ce que je viens. Et je suis aussi persuadé que nous avons tous un parcours différent et que le Seigneur Jésus a été aussi à côté de chacun d'entre nous à un moment donné dans notre vie ou à des moments où c'était vraiment très difficile. Et Dieu sera toujours avec nous et ne nous abandonnera jamais. Que le Seigneur vous bénisse.